vas-y.
Avant toute chose, permettez-moi au nom de toute l'équipe du Cercle Aliénor de vous souhaiter une bonne année 2024, une bonne année de santé, une bonne année de paix, une bonne année de poésie. Je vous signale d'ores et déjà que la prochaine séance se tiendra le 10 février avec votre serviteur et Catherine Segers qui viendra vous parler de son père Pierre Segers. Y a-t-il des annonces pour ce début d'année, Jean-François?
Merci, peut-être deux annonces. D'abord nos ricochets poétiques qui se tiennent le dernier jeudi du mois à 17h au café Pont-Neuf à côté de la Samaritaine. Et puis le 6 février, une information personnelle, l'apparition de mon nouveau livre de poésie aux éditions Unicité. Cela se passera au Mardi littéraire de Jean-Louis Guérin, le mardi 6 février à 20h. C'est Francis Mérino qui m'interviewera.
Merci. D'autres annonces? Merci bien. Trois cyprès sont vigiles, où le pardon fera la porte. Les plantes simples qui s'étreignent habitent. On ouvrira bientôt le cran de nos désirs. C'est par ces quelques vers que je me permets d'introduire Gabrielle Alten, car elle est d'abord poète et puis aussi romancière et nouvelliste. Elle fut professeure des universités, elle a traduit Rilke et est à l'origine de l'association des amis de Béatrice Douvres. Elle est membre du jury du Prix de l'Abbé et elle a très récemment publié chez Gallimard La Fête Invisible. Elle a publié La Belle Mendiante, suivie de Lettres à Gabrielle Alten de René Char, dont elle va nous parler maintenant.
Je ne sais pas si je vais porter. Ah, il y avait des lettres que je voulais lire pourtant. Je vais vérifier ça tout de suite.
C'est pas bien.
Si permettez, hein, ce retard. Ah ben non, je ne l'ai pas.
On a perdu les lettres.
Bon, moi tant pis, j'ai oublié. Il y avait pourtant des lettres, une lettre, qui remerciait d'un poème que je lui avais envoyé et qui était d'une générosité tout à fait extraordinaire. Et c'était la générosité à l'époque d'un poète confirmé, que tout le monde connaissait, à l'endroit d'une petite... de quelqu'un que personne ne connaissait.
Voilà. Alors, je vous demanderai de faire le plus de silence possible, car malheureusement, le micro ne fonctionne pas. On commence bien l'année. Mais, heureusement, Gabriel est là. Et non, il n'y a pas de micro. Donc, merci de votre attention.
Bon, alors, j'ai la tâche donc, de parler de René Char, et je ne suis pas sans savoir que c'est un poète, une personnalité qui ont été clivantes. Mais peut-être clivante pour de bonnes raisons. Tout d'abord parce que c'est quelqu'un qui résistait. C'est quelqu'un qui n'était pas dans l'approbation spontanée. C'est quelqu'un qui n'arrondissait pas les ongles. Mais c'était quelqu'un qui parlait au nom de sa ferveur, au nom de sa véracité, de son besoin de véracité. Et je crois que c'est peut-être l'essentiel. En tout cas, ça me suffisait. Voilà. Donc, j'ai cette tâche d'essayer de parler de lui, qui est une tâche difficile. Je vais même vous le dire avec une anecdote. Il s'est trouvé que René Char a été au programme d'agrégation, je ne sais plus quand, en français. J'étais universitaire, je n'étais pas ce qu'on appelait francisante. Donc, ça ne devait pas me concerner. J'étais en littérature comparée. Or, les deux collègues qui étaient francisants, spécialistes de poésie contemporaine dans ma fac à Nanterre, l'université de Nanterre, n'ont pas voulu le traiter. Et l'un d'eux qui savait que j'avais rencontré René Char m'a chargé de faire ce cours. J'ai hésité parce que j'avais peur de furoyer les étudiants, c'était pas ma discipline. Puis j'ai accepté. Eh bien, je peux vous dire que pendant des années, j'ai reçu des lettres de ce groupe d'étudiants. Et je me disais que ce n'était pas à moi qu'arrivaient les lettres, mais qu'elles arrivaient à Char, et pas à moi. Et moi, j'étais le passeur, ou la passeuse, peut-être. Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, j'ai dit que c'était une personnalité qui pouvait être clivante. Oui, parce que c'était une personnalité résistante. Alors, je vais dire un mot de la résistance avec un grand R, mais il était résistant par nature. On s'est disputé, tout simplement, pour des choses de la vie, sans aucune espèce d'importance, parce que il campait sur sa position, ben peut-être que moi sur la mienne, c'est possible. C'est possible. En tout cas, on s'affrontait. Mais c'était des affrontements heureux, enfin, importants en tout cas. Voilà. Donc, s'il fallait tout de suite parler de René Char, il y aurait pour moi à dire un personnage qui est du côté de l'affrontement de façon complètement spontanée. Quelqu'un qui est du côté donc de la résistance, avec un petit R ou avec le R de la période historique, bien évidemment, mais aussi, ce qu'on dit beaucoup moins, du côté d'un certain dépassement. C'est-à-dire, j'ai lâché le mot qui m'occupe tout de suite, du côté de l'émerveillement. Ça, c'est peut-être beaucoup plus rare. C'est quelqu'un qui savait admirer et qui savait s'émerveiller. L'admiration étant secondaire. Voilà, ce sont probablement les trois points que je vais tenter d'aborder. Voilà. Alors tout d'abord la résistance, puisque historiquement, on est là. Et en fait, René Char est, ou se veut peut-être, jusqu'à la mort comprise, du côté de la résistance. Il se veut libre. C'est quelqu'un qui se veut libre de ses choix, y compris quand tout va mal et quand les circonstances sont désastreuses. Au moment de la guerre, il suffit de lire avec attention un partage formel, par exemple, pour savoir qu'il a eu à souffrir. Par exemple, quand l'un des leurs était pris par les Allemands, était la cible des miliciens. Il suffit du reste, c'est tout simple, de regarder dans partage formel le nombre de noms propres qui s'y trouvent inscrits et qui étaient tous des proches résistants avec qui il avait quelque chose et qui quelquefois se faisaient descendre par les Allemands, pour savoir combien tout ça était brûlant de vie, d'affection, de désarroi, d'émotion, etc. Voilà. Donc, il se voulait, lui, cependant, malgré tout cela, libre. Libre de ses choix, libre de faire ce à quoi il croyait. Et ça, c'est très important. Il le dit, du reste. Il y a un certain moment, il emploie le mot, l'expression plutôt en majuscule, de tout cela. Face à tout cela en majuscule. Et tout cela, c'est cela qui le submerge. Ou qui devrait le submerger, et il ne se laisse pas submerger, il continue de lutter. Je vais citer la formule si je la trouve. C'est dans Feuillet d'hypnose. Je suis désolé, pardon. Pardon. Et alors je vais tout vous dire, c'est dans Feuillet d'hypnose, c'est numéro 50. Voilà. Face à tout, ouais. À tout cela, ça c'est en majuscule, un Colt promesse de soleil levant. C'est-à-dire la résistance jusqu'à la mort comprise. Et ça me paraît capital, ça me paraît désigner l'homme qu'il était. Voilà, du reste, toujours dans Feuillet d'hypnose, mais un peu plus loin, au numéro 42, dans le même recueil, il dit, la résistance, dans ce cas-là, il s'en détache avec une sorte de dérision. Il cite quelqu'un, c'est pas lui qui l'aurait dit, enfin c'est lui qui l'écrit, pour montrer une sorte de liberté devant la mort à recevoir. Je vous cite l'aphorisme. Entre les deux coups de feu qui décidèrent de son destin, qui le tuèrent, il eut le temps d'appeler une mouche « Madame ». Bon, c'est à la fois dérisoire et c'est immense. Et ça, c'est tout René Char. Dire quelquefois les choses par le petit bout de la lorgnette, mais cet homme qui s'est fait descendre était supérieur à ce qui lui arrivait. Voilà. Et il y va là, il me semble, de l'expression d'une éthique de la fidélité à soi à ce qu'on élit, d'une fidélité à ses propres valeurs et d'une ténacité dans la fidélité, ce qui est à mon sens très important. Donc jusqu'à la mort comprise, d'où ce discocol qui en devient promesse de soleil levant. Il faut le faire, ça. Prendre un colt comme une aurore, il faut en être capable. Ça n'arrive pas à tout le monde. D'où, si je traduis ce que je viens de dire en termes familiers, une sorte de jusqu'au boutisme. Il y a un jusqu'au boutisme de cette personnalité-là. J'aime assez ça, personnellement. Et sans doute, tirons-en les conséquences, sans doute le côté abrupt de certaines de ces propositions. On ne peut pas être aussi tenace, aussi ferme, aussi décidé sans avoir des angles et sans heurter. Rien sans rien, c'est le revers de la médaille. Et ce côté, je dis côté abrupt, je ne dis pas péremptoire. Et je ne veux pas dire ce mot de péremptoire, parce que c'est en effet quelque chose qu'on lui a reproché. On a souvent reproché à Charles ce côté abrupt, je dis les choses. Oui, il les disait de cette façon-là, parce que c'était l'urgence. Il n'avait pas les moyens de faire autre chose. On était en termes de guerre, et ses petits carnets, il les avait dans le fond d'une poche. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une partie, je crois, de partage formel qui a été caché dans une cave d'une maison de Séreste qui est dans la région du Vaucluse, parce qu'il ne pouvait pas partir avec ses carnets sur lui. Tout a été caché dans la cave derrière une pierre et il est allé les déterrer, la guerre terminée. Voilà. Donc on est tout ce qu'il écrit à cette période-là, je crois que ça va à son tempérament, ça je le crois vraiment. Mais ça a tout de même été écrit dans l'urgence et contre la mort. C'est l'évidence.
C'est vous ?
Oui, c'est pas moi. Voilà. On est dans le risque à tout moment. Et comment dire ? Il avait d'autres choses à sauver que l'ardeur de ses fidélités finalement, puisque tout ça pouvait partir d'un moment à l'autre. Et il ne faut pas oublier ce que je disais tout à l'heure, face à tout cela, c'est-à-dire que c'était face au pire, le colt ne pouvant être que cette promesse de sauvegarde et de liberté. Alors, il faut quand même déjà le souligner, devant ce côté abrupt sur lequel j'ai insisté, il y a tout de même l'attention du poète à, comment dire ça, à ce qui vit dans la vie, aux petites choses du vivant, qu'il s'agisse d'un brin d'herbe, d'un sourire, d'un regard d'enfant, de tout ce que l'on voit. Regard d'enfant, pas tant que ça du reste. Non, regard d'un autre. L'enfant, il en parle, mais ça, c'est pas notre problème là. Il en parle dans cet enfant, sur son fardeau, sur ton épaule, cette chance et ce fardeau. Enfin bon, il en parle très peu finalement. Voilà. Donc, tout supporter. Et ce côté abrupt, cette exigence, et c'est par là qu'il est grand probablement, sont toujours liés à l'émotion. Il y a cette violence de la riposte, mais il y a toujours, toujours une émotion qui palpite finalement. Je vais en donner un exemple. Ils ont eu un des proches qui a été tué par des miliciens. Bon, c'est un pincement de cœur quand on est sur le front que de voir l'ami fauché de cette façon-là. Et c'est un partage formel. Et cet ami qui a été assassiné de cette façon-là, il l'appelle le père Dromore. Tel un père Dromore, il s'est affaissé. On est à la campagne. On est dans un monde de chasseurs. On sait ce que c'est qu'un perdre mort, ce que peut-être nous, moi je sais. je crois qu'il m'est arrivé d'en tirer. Et que j'en ai tué un une fois dans ma vie, quand j'avais des petites filles. On ne sait pas, nous parisiens, vraiment ce que c'est. Lui savait. Eh bien, l'ami est tombé tel un perdre mort. Voilà. Je vais vous lire le texte. Cet homme qui est tombé, c'était en fait un infirme. Et cet infirme a été tué par les miliciens parce qu'on le soupçonnait des bergers des réfractaires. Donc, il a été assassiné. Et je vous lis ce qu'il écrit. « Tel un perdreau mort m'est apparu ce pauvre infirme que les miliciens ont assassiné à Vachère. Après, c'est lui qui parle, l'avoir dépouillé des hardes qu'il possédait, l'accusant d'héberger des réfractaires, et il continue, les bandits, avant de l'achever, jouèrent longtemps avec une fille qui prenait part à leur expédition, un œil arraché, le thorax défoncé. L'innocent absorba cet enfer, et leur rire en majuscule, et leur rire. Et là, le texte s'arrête là, et entre parenthèses, dessous, il écrit « Nous avons capturé la fille ». Mais c'est un texte d'horreur. C'est un texte, la scène est une scène d'horreur. Et quelqu'un y est passé. Donc, émotion, rigueur de cette période. Mais des exemples comme ça, il n'y a qu'à ouvrir. On ouvre Fureur et mystère n'importe où, et on en trouve partout. Je cite comme ça pour le dire. Le numéro 104, par exemple. Les yeux seuls sont capables de pousser un cri. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne sais pas les circonstances. Il y a ça. Ou bien encore un peu plus loin, un mètre d'entrailles pour mesurer nos chances. Mais pas beaucoup. C'est-à-dire que... Voilà. Et à travers tout cela, se dessine une éthique qui est une éthique pourtant de guerre. C'est une éthique de résistance. Je suis partie de ce mot-là. Mais c'est aussi une éthique de l'ordinaire. C'est-à-dire que passé ce temps-là, il a continué à tenir cette éthique-là. Mais dans les petites choses de la vie quotidienne. C'est-à-dire que cette éthique consiste en une invitation, en toutes circonstances, à s'attacher à ce qui vaut, pas à n'importe quoi. Ne s'attacher qu'à ce qui vaut, qu'à ce qui compte, qu'à ce qui tient. D'où le magnifique aphorisme que je pense vous connaissez tous, parce qu'il est très très souvent cité. Si l'homme, parfois, ne fermait pas souverainement les yeux, il finirait par ne plus voir ce qui vaut d'être regardé. Je crois qu'il me l'a offert un jour, écrit sur un caillou. Voilà. Si l'homme, parfois, ne fermait pas souverainement les yeux, il finirait par ne plus voir ce qui vaut d'être regardé. Une fois encore, la tâche est toujours de choisir. De choisir. La tâche est toujours de se donner cette liberté-là. La liberté de savoir ce que l'on veut, finalement. La vérité du choix. D'où, si souvent chez lui, l'usage du mot « souverain » ou « souverainement » ou « souveraineté » l'invite et de rester souverain, fût-ce cap au pire. J'ai tort de dire cap au pire, parce que ça n'est pas de son vocabulaire, ni du mien, du reste, c'est le vocabulaire de Beckett, vous l'avez reconnu. C'est le cap au pire, c'est une des œuvres de Beckett. Alors, à ceci près, merci monsieur, oui, je veux bien un thé. À ceci près, que quand Beckett dit cap au pire, je ne l'ai pas tout à fait en tête, hein, mais quand il dit cap au pire, c'est face à l'existence extérieure et intérieure. Tandis que chez Charles, l'intériorité n'est pas convoquée là, c'est face au pire dehors. Et il s'arme contre le dehors. Tandis que chez Beckett, le pire est. Il est partout, dedans et dehors. En soi aussi bien. Voilà, peu importe, on n'est pas en train de parler de Beckett, mais voilà, pour Beckett, le pire peut venir de soi. C'est pas le cas ici. Alors, ce qu'on peut dire encore de cet instinct de liberté, c'est que je l'ai proposé dans des situations désastreuses, il peut aussi être décliné dans des circonstances heureuses. C'est quand même un avantage très large. Et il y a aussi, le bon temps chez Char. Et je vais vous en donner quelques formulations sereines. Par exemple, au numéro 131, toujours de partage formel, il évoque des repas. Je cite, hein, « À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir, la place demeure vide, mais le couvert reste nu. » La liberté de relation. Et ça, je l'ai vécu, hein, auprès de lui, il m'est arrivé carrément de m'opposer. Je vais même vous le dire, puisque j'en parle là, un jour, je reçois chez moi une jeune comédienne qui l'aimait beaucoup, qui le connaissait bien, car elle avait été très jeune, la maîtresse de Jacques Dupin, qui était un ami très proche. Bon, j'invitais cette jeune femme à la maison parce qu'elle m'intéressait, que j'avais de l'amitié. Je le dis un jour à un chat, ah ben, je vous dis pas son nom, elle est venue chez moi, elle est venue dormir chez moi. Il commence à me dire, mais qu'est-ce qu'elle faisait là, hein? Je dis, mais Lyon, c'est mon hôte. On n'a pas le droit de dire du mal de mon hôte. C'est moi qui l'ai fait. Enfin, dire du mal de quelqu'un qui vient chez moi, mon frère. C'est mon travail, c'était pas le sien. Voilà, donc tout ça c'était du vivant. Hein. Voilà, mais en même temps c'est son œuvre. Donc à tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté. Voilà, le couvert reste mis, la place demeure vide, ce qui est peut-être un peu inquiétant. Hein. Je ne vais pas au bout, mais on peut peut-être s'inquiéter. Voilà. Bon, simplement, quand on parle de liberté et de choix comme ça, on ne peut pas seulement parler du choix positif, il y a le choix négatif, c'est-à-dire le refus. Quand on prend, c'est qu'on refuse aussi à côté. Et il y a une très grande liberté de refus chez Char, c'est évident. Il y a un mouvement de pendule entre ce qu'on prend et ce qu'on laisse. Ça, c'est la vie, nous en sommes tous là. Être partisan, c'était donc aussi non seulement être résistant, puisque je suis parti de là, mais c'était ne pas vouloir marcher en certaines occurrences. Hein, en certaines occurrences. Voilà, donc on trouve tout cela, bien évidemment.
Une guerre, une pression.
Bien évidemment chez lui. Voilà, alors pour ce qui est de ce mouvement pendulaire entre la liberté de prendre et celle de quitter ou celle de refuser, vous avez évidemment des tas d'aphorismes qui le disent volontiers. L'acquiescement éclaire le visage, écrit-il, c'est pas moi, hein, c'est lui. Le refus lui donne la beauté. Bon, là il choisit le refus. C'est bien la souveraineté dont je parlais tout à l'heure. C'est la beauté de savoir poser un rempart, la souveraineté de savoir montrer qu'on n'est pas du même ordre que ce que l'on voit. Voilà. Et ceci, c'était sensible en temps de paix comme en temps de guerre pour lui. Ça, c'est son tempérament. Je pense profondément pendant ce temps-là, puisque je le dis facilement, je fais monter. Je pense profondément que la résistance, le climat de l'époque, a mis en valeur un tempérament. Si René Char avait vécu en temps de paix, on saurait peut-être pas si bien que ça les choses. On aurait dit il a mauvais caractère. Voilà, il est indéracinable de ce à quoi il croit. Mais je crois qu'il y a eu une sorte de... Je pense que ce temps de guerre a eu un pouvoir révélatoire de la qualité d'une personnalité, d'un tempérament. Je mélange mes affaires. Du reste, c'est un point sur lequel il ne changera jamais. Je ne sais pas si vous avez été sensible en passant de Fureur et Mystère aux Matinaux. Les Matinaux sont un livre qui a été conçu après la guerre. Et il y a une mise en garde, la mise en garde des Matinaux, qui prévient le lecteur que la virulence et l'urgence du livre précédent ne sont plus de mise. Et très étrangement, il parle de la minuscule plaie qu'on va trouver dans son livre. Il n'y a plus la plaie de la guerre, elle est finie. Mais, on n'est pas au paradis. Et il y a encore cette minuscule plaie que dit la mise en garde, devant laquelle il va se trouver et qu'il va avoir à cœur de dire. C'est quand même une œuvre qui est toute sur le sentiment existentiel de l'être. Le sien, le nôtre, évidemment. Voilà. Du reste, dans cette mise en garde des matinaux, il présente ce qui suivra comme une suite de chansons. On ne peut pas être plus humble. Dans la suite de chansons qui suivra, je ne sais pas si vous pensez que les matinaux sont une suite de chansons. Pas moi. Il y a quand même quelques textes qui sont fulgurants. Néanmoins, par rapport à l'urgence qui avait précédé les années de guerre, ça lui apparaît comme ça. Il écrit ceci dans la mise en garde, il faut le faire quand même. Pièce presque banale, d'un coloris clément, d'un contour arriéré, dont le tissu porte cependant une minuscule plaie. Voilà comment sont présentés les poèmes des matinaux. Il faut le faire. Alors qu'on va en lire tout à l'heure,
ce
sont des poèmes immenses. Je crois que plus tard Jeanne, etc., ce que tu vas lire, Colette, ça fait partie de ces très très grands, textes. Voilà. Donc, son besoin est de préciser toujours l'objet de ses refus. Toujours. Mais, on ne peut pas en rester là. De toute façon, je pense qu'un poète, autant on y va, ne peut pas être un grand poète. Tout simplement parce que la vie est variée. Tout à l'heure, j'ai employé un grand mot, j'allais dire un gros mot. J'ai employé le mot jusqu'au boutisme. Oui et non. Je ne peux le conserver, en vérité, ce mot-là. Je crois que je le conserve, en vérité. Que en posant que cette pensée ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de butoir dans la pensée de René Char. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a jamais de fixité, il n'y a jamais de borne. On est dans une pensée, on est dans une réflexion, par jet, si je puis dire, qui ne peut être qu'une aventure. Et qui ne peut être qu'une aventure parce que précisément elle ne s'arrête jamais. Quand il a un concept, quand il a eu l'idée, il la laisse filer vers l'avenir, jusqu'au moment où ça peut se casser la figure, bien évidemment. Et en tout cas, il n'y a dans la pensée de René Char, à mon avis, mais peut-être tout à l'heure on en rediscutera, il n'y a jamais d'acquis. C'est un être qui ne sait pas ce que c'est que l'acquis ou le terrain privé, si je puis dire. Ça file toujours au-delà. Et je crois que le mot d'acquis que j'ai employé, et que j'ai employé à dessein, est un mot qui lui aurait fait horreur. Ce n'est pas son lieu, ce n'est pas son ordre. Tout ce qui est pensé chez lui, pensé et eux, tout ce qui est motif d'émotion, est toujours projeté, toujours plus loin, toujours en route. Donc ce qui est proposé s'inscrit toujours dans un mouvement qui se poursuit et dont la limite n'est jamais atteinte. Il y va toujours d'une projection, il y va d'une vision. C'est un poète éminemment doué de vision. Il y a des poètes qui disaient, lui fuse. Il court vers son avenir, autant dire, tout ce que je viens de dire là, prouve qu'on va vers l'inconnu. J'ai employé le mot d'aventure tout à l'heure. On va jusqu'au moment où on risque de se casser le nez. J'emploie le mot casser le nez parce que bon, ça c'est du jeu. Mais dans le Don Juan de Molière, qui est une autre de mes sources, hein, dans le Don Juan de Molière, qui est une œuvre.
sûrement génial. Don Juan dit à Sganarel, oh, ton raisonnement va se casser le nez. Il tombe de cheval. Le pauvre Sganarel. Bon, on est là. C'est une pensée qui risque de se casser le nez tout le temps. Et ces risques liés à l'inconnu, il les accepte. C'est quelqu'un qui accepte toute l'aventure, y compris, non pas seulement l'aventure de guerre, mais l'aventure de pensée. C'est-à-dire qu'il mène sa pensée jusqu'au moment où ça peut déborder. D'où les propositions qui vont être les siennes. Je vous signale, et je ne sais pas si vous, enfin certains le savent ici, que partage formel devait s'appeler autrefois, en première intention, proposition subsidiaire. Voyez l'humilité du terme là encore, proposition subsidiaire. Et c'est après qu'il a trouvé ce titre admirable de partage formel, la forme départageant le terminé de ce qui n'est pas encore pensé. C'est la forme qui va départager. Mais au départ, c'était des... Pourquoi ? Parce que c'était des notes. C'était des notes de travail qu'il griffonnait. J'ai porté là, attendez. J'ai porté là, ça sera mieux dit par lui que par moi. Ces notes n'empruntent rien à l'amour de soi, à la nouvelle, à la maxime ou au roman. Un feu d'herbe sèche où tout aussi bien était leur éditeur. La vue du sang supplifié, on a fait une fois perdre le fil, a réduit à néant leur importance. Elles furent écrites dans la tension, la colère, la peur, l'émulation, le dégoût, la ruse, le recueillement furtif, l'illusion de l'avenir, l'amitié, l'amour. C'est dire comment elles sont affectées par l'événement. J'aurais dit elles sont affectées par l'émotion. Ensuite, plus souvent, survolées que relues. On est dans une prise de vie. Dans une prise de vie à des moments intenses. Voilà. Mais donc, je disais que on n'était jamais dans l'acquis, mais il le dit de mille façons différentes. Par exemple, quand il écrit « Être du bon, n'être pas du festin », tout simplement. « Être du bon, n'être pas du festin ». Quand il écrit « ne t'attarde pas à l'ornière des résultats ». Les résultats sont une ornière, parce qu'il faut aller plus loin. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'acquis. Aucun résultat ne l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de continuer plus avant. Et voilà, on est toujours... c'est l'œuvre d'une alerte perpétuelle. Pas d'acquis. Le risque est toujours là. Et il faut toujours davantage. Qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Donc, alors, je vais vous donner l'envers. Ça, c'est le côté brillant, c'est le côté de Charles. Mais d'où le fait qu'il fustige à un certain moment de la guerre la France qui se serait enlisée. Je vous lis le texte qui est terrible, mais ben, c'est l'histoire. La France qui a des réactions d'épave dérangées dans sa sieste. Rendez-vous. Ouais, c'est exactement ça. La France qui a des émotions d'épave dérangées dans sa sieste. Imaginez le soulèvement le refus. C'est un homme d'action qui parle. Alors, que peut-on dire ? Il va de soi que passion, véhémence et refus se conjuguent chez lui à tout moment. René Char est quelqu'un qui s'est toujours révolté contre tous les contentements médiocres. Il y a des quantités, j'aurais pu citer des quantités de ces passages où il le dit, j'ai peut-être en trouvé un, non, je ne l'ai pas recopié, tant pis. Dont beaucoup, bon, il refuse tout ce qu'il refuse, d'où, à l'inverse, tant de propositions de départ, d'arrachement à la circonstance, d'où sa préférence de ce qui surgit ou va surgir et de ce qui va emporter les destins en bien ou en mal. D'où ses propos de rupture. Je peux vous donner quelques propos de rupture. Par exemple, éloignons-nous, rompons. Rompons la collation. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y avait le repas où on invitait la liberté. Et bien là, rompons la collation. Ou bien encore, et dans ce texte-là, je note ce qui est plus rare, une certaine amertume. C'est pas trop son style. D'habitude, il râle. Tandis que là, il y a peut-être un peu d'amertume. La terre de mon siècle, c'est après la guerre, hein. La terre de mon siècle, ses visages grattés, elles croulent plus lourdes et spumeuses. Spumeuses, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais ce n'est pas très agréable. Bon, voilà. En vérité, ce qui l'attaque là, c'est tout ce qui a des limites. Il ne supporte pas les limites que l'on se donne à soi-même. D'où la logique de la question qu'il pose, et que je vais répéter, sa question c'est comment vivre sans inconnu devant soi. Quitte à se casser le nez, comme je disais tout à l'heure, ou comme le Molière le fait dire à Don Juan. Comment vivre sans inconnu devant soi. Et ceci, la question elle n'est pas de moi. Hein. La question elle est proférée dans les poèmes pulvérisés. Je la cite, c'est une citation. Il ne peut spontanément qu'aller de l'avant, qu'aller plus loin, s'aventurer, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a d'autres échos de cette proposition qui se trouvent ailleurs, dans autrement modulé, bien évidemment. Je lis ceci, vous l'entendez comme vous le désirez. Épouse et n'épouse pas ta maison. Bon. Cette proposition, on peut en dire beaucoup de choses. C'est manifestement une proposition qui est dite avec l'esprit du poète, qui est d'apparier les contraires. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Il dit une chose et son contraire, et il les fait se rencontrer. Épouse, et n'épouse pas ta maison. Mais dans cette expression-là, on peut noter d'abord épouse tout seul. Ça répond chez Char. Un désir d'enracinement. Il y a un des poèmes, je ne l'ai plus en tête. Je vous demande pardon, j'aurais pu le chercher, je ne l'ai pas fait. Un des poèmes qui doit être plutôt dans les matinaux, où il dit que tout poète, tout artiste doit avoir, et là je cite, un accoudoir de campagne. C'est-à-dire que tout poète, tout artiste doit avoir un lieu d'enracinement. Ça, il est complètement de ce côté-là. Et je dirai peut-être mieux tout à l'heure. Char est aussi un homme de la terre, c'est un homme du terroir. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Un jour, je revenais de Radio France, où j'avais été invité au panorama de France Culture avec Rob Grillet. Nous voilà dans la voiture, je le conduisais. Rob Grillet de me dire: oh là là, on ne peut pas être poète avec un accent pareil. Je ne peux pas imiter l'accent du Midi, j'ai beau y vivre, j'ai beau en revenir, je ne peux pas. Mais cet accent, l'accent du Vaucluse, l'accent de l'Île-sur-Sorgue ou du Barou où j'habite, je peux vous dire que c'est conséquent. Hein. C'est quelque chose. C'est un accent. Bon. Et moi, d'essayer de râler contre Rob Grillet en disant « tant pis pour vous, c'est quand même un poète qui est très grand ». Et on s'est disputé, évidemment. On s'est disputé aimablement parce que c'était quelqu'un d'aimable, en vérité. Mais on n'était pas du tout d'accord. Voilà cet homme avec son gros roulé de paroles et de... Ouais, qui savait la langue. Du reste, alors là je fais une parenthèse, j'ai relu René Char tout ce temps-ci. J'ai été très surprise, je ne pensais pas vous le dire, j'ai été très surprise par la simplicité de sa parole. C'est une parole de la langue quotidienne. Il n'y a pas de recherche apparemment. La seule recherche, c'est la véracité. Je suis éperdu d'admiration. Ça, je ne devais pas vous le dire. Je n'aurais pas dû. C'est une parole qui est le plus, au plus près, comme on dit quand on fait de la voile, au plus près de l'émotion ressentie ou du réel. Et c'est une parole d'homme du lieu. C'est clair. Voilà. Alors, j'en étais à un accoudoir de campagne. Il faut s'insérer quelque part. Et puis, épouse et n'épouse pas ta maison. C'est-à-dire, il te faut cet accoudoir de campagne, mais n'oublie pas d'aller ailleurs et d'être libre de cela même que tu chéris. En amour, je ne sais pas ce que ça donne. Bon. En fait, n'être prisonnier de rien et ne jamais barrer la route à l'inconnu. Si bien que la vie, cela étant dit, la vie éclot partout et c'est cela qui le motive. Et ceci est suffisamment subtil et parfois contradictoire pour lui que la vie peut éclore même quand on reste sur place. Il a besoin d'aller partout, mais le sur place peut aussi contenir un partout. Vous voyez, tout est extrêmement subtil. René Char, en vérité, n'est jamais en quête de sécurité, mais d'intensité, d'où qu'elle vienne. Si bien que si l'intensité est dans le surplace d'une émotion, tout va bien, et il y parvient. Il l'exprime quelquefois autrement, évidemment mieux. Il dit quelque part, là non plus je n'ai pas cherché la référence, mais elle existe, vous la trouveriez, qu'il veut être au zénith de son désir. Au zénith de son désir, c'est-à-dire suivre l'impulsion magistrale, suivre le plus intime de sa propre pulsation, si je puis dire. Voilà, donc il sera toujours au zénith de son désir. Peu lui importe donc le danger de l'inconnu dont je parlais, peu lui importe même la fugacité des jouissances que le présent ou l'inconnu lui apporterait. Que les jouissances soient fugaces, qu'elles soient fragiles, qu'elles soient précaires, ne lui importe peu s'il peut les saisir. Donc, on est devant un constat. On peut en arriver à un constat plus général et dire quelque chose que je pense de manière totale. La poésie, quand elle est authentique, est terriblement réaliste. Ça, je le crois absolument. Quel que soit l'ordre de la poésie, fût-ce avec un aspect baroque, comme dans certaines œuvres, quand la poésie est authentique, elle ne ment jamais. Elle ne triche jamais. Il y a une véracité de la parole juste. Elle ne raconte pas d'histoire, si vous voulez. Et René Char peut à la fois vanter les mérites de l'inconnu vers lequel il tient à se diriger et la précarité qui l'intéresse ou qui lui sont liées, et en revenir à l'universalité du manque dont il parle de la même façon. C'est-à-dire que c'est une œuvre dont l'empan est un mot claudélien, hein. ce n'est pas un mot charien. L'empan, c'est-à-dire ce que couvre l'œuvre, est en fait immense. Je vous cite un texte, par exemple. L'imagination jouit surtout de ce qui ne lui est pas accordé. Comment il le dit, c'est lui. Car elle seule possède l'éphémère en sa totalité. Et il poursuit un peu plus loin cet éphémère, carrosserie de l'éternel. Eh bien, je vous laisse penser à cet éphémère qui est carrosserie de l'éternel. Bon, du moins, ce dont je suis sûr, c'est que nous sommes prévenus et nous ne sommes pas abusés. Nous sommes prévenus. Ça me paraît extrêmement important. En bref, nous habitons le risque. Et il l'accepte et le dit. Et cela plus encore, on habite le risque bien plus encore quand on est en quête d'essentiel et d'intensité. Qui veut être intense, c'est bien prendre des risques. Les mères de famille ne cessent pas de dire à leur enfant « Arrête-toi là parce que ça va mal se passer ». C'est aussi bête que ça. Et aussi profondément juste. Voilà. Cependant, ce que je viens de dire peut encore être raffiné. Car cette ouverture à l'inconnu peut aussi se déployer dans des activités très peu voyantes. Il n'est pas nécessaire d'être chef de guerre pour déployer ce type de pensée. Ainsi trouve-t-on au numéro 46 de Feuillet d'hypnose, ceci, l'acte est vierge, même répété. Faisons des gammes au piano, et bien on en fait tous les jours, l'acte est vierge. C'est vrai en plus. c'était un peu ça. Voilà. Autre pan de cette méditation qui concerne l'action et son rapport à l'imagination et à la poésie, je trouve ceci chez lui. Bon, j'ai perdu une page, apparemment. Ouais, l'acte est vierge. L'acte est vierge, j'ai répété, ça mérite d'être médité. Bon, je vais faire une petite digression. Il y a chez Char un lien absolu entre action et poésie. Il n'y a pas d'un côté la poésie qui serait affaire de bureau, si je puis dire, et action. De toute façon, il écrivait lui aussi dehors. Il écrivait dehors avec son chien Tigron au pied, en marchant dans les chemins. Voilà, on s'est disputé sur les chemins comme des fous. Voilà. Donc, y a une autre conjonction qui est peut-être plus évidente ou plus structurante du fait qu'il l'a vécu pendant la guerre. L'action, c'est la parole, et la parole peut être l'action. J'ai peut-être des notes. Oui, où on peut retrouver sous sa plume des soucis complètement terre-à-terre qui ont valeur, qui ont une grande valeur. Par exemple, dans ses notes, on trouve, pendant la guerre, veiller à ce que nos maquisards soient bien chaussés. On est dans le terre-à-terre. Il a aussi cette possibilité-là. Je trouve ça, pour moi, admirable. Bon, voilà. Bon. La poésie et la vie comme elle va, ou la vie comme elle va mal, sont liées dans son imaginaire ou dans son vécu, etc. Elles sont conjointes. Et, c'est, je pense, ce qui prête son acuité à sa parole, peut-être aussi son intransigeance à ses aphorismes. Peut-être aussi. Il y a là... une véracité qui n'admet plus le trouble, donc il va directement à ce qu'il a à dire au nom de cette présence au monde. Voilà, donc je crois que l'ensemble, malgré le côté resserré des aphorismes, ce côté resserré a du reste aussi une ouverture. C'est Starobinski qui dit très très bien, je crois que c'est, il faut des points d'interrogation, dans un article qu'il aurait écrit dans une revue canadienne qui s'appelait Liberté. Et je crois me souvenir que l'article de Starobinski, immense critique hein, d'autre part, s'appelait René Char et la définition du poème. Ou René Char ou la définition du poème, je n'en ai pas une mémoire absolue. Et Starobinski note très très bien combien poésie et action chez lui sont une seule et même chose. Alors, ces aphorismes, que faut-il ces aphorismes conduisent au plus proche, au plus terre à terre, je dis tout à l'heure, ou à l'ouvert. Je vais retirer le mot d'ouvert, parce que c'est un mot qui est rilkéen, qui ne va pas pour René Char, mais qui est l'infini, la distance inatteignable du bout du désir. Le mot d'ouvert ne va pas en cette circonstance. Hein. Donc, mais il y a ouverture à cet inconnu dont je parlais, qui est l'inconnu de tous les dangers, bien évidemment. Quant à ce risque, on trouve... Voilà, mais il y a chez lui un refus tout à fait dédaigneux du repli, de la présence, de la prudence, pardon, et d'où encore cet esprit de résistance que j'ai évoqué tout à l'heure et dont je suis parti, et qui peut s'écrire, nous l'avons dit tout à l'heure, avec une majuscule ou sans majuscule. C'est l'histoire ou c'est la vie au jour le jour. Du reste, oui, ça je l'ai dit tout à l'heure, la résistance historique, me semblait-il, a révélé certains plans de ce tempérament. Char a été le capitaine Alexandre. Son nom de guerre, c'était le capitaine Alexandre, qui était son nom de résistance. Voilà. Alors, je vais me permettre de dire un petit souvenir personnel. J'ai rencontré René Char à la mairie de Carpentras. Et oui, la mairie de Carpentras, où il y avait un vernissage de l'exposition de l'œuvre de Denise Esteban. Denise Esteban, dont on ne parle pas beaucoup, était morte d'un accident de vélo. Et s'est tuée à l'île de Ré, je crois. À l'île Dieu, dans un accident de voiture. C'était l'épouse de Claude Esteban, le poète, dont on ne parle plus beaucoup, que j'ai connu plus tard. Du reste, je l'ai rencontré au Brésil, je crois, au Brésil ou à Buenos Aires, je ne sais plus. Je lui dois un des fous rires épouvantables de ma vie. Je n'avais plus où me mettre, parce que j'avais... Non, c'était en Argentine, puisque je m'étais permis de dire, alors qu'on était dans une soirée tango, que je détestais le rythme du tango. Que n'avais-je pas dit ? Il s'est moqué de moi pendant tout le repas, adorablement. J'ai ri à tel point que j'ai été obligée de quitter la table. Bon, voilà. Mais c'était au vernissage de Denise Esteban qu'il y avait René Char. Et dans cette salle de la mairie de Carpentras, il ne faut pas croire qu'il n'y avait que des intellectuels. Il y avait les gens du cru, c'est-à-dire les paysans du Barou et d'ailleurs. Et j'ai été très, très, très impressionnée par la déférence qui l'entourait. J'ai retrouvé une fois la même déférence dans une autre circonstance, je ne vous la dirai pas. Et j'ai eu l'expérience, par le hasard de la vie, de la déférence que l'on a vis-à-vis d'un certain nombre de ministres. C'était pas la même. C'était pas la déférence obséquieuse devant le pouvoir. J'ai vu aussi la déférence devant de grands intellectuels. C'était la déférence que l'on peut avoir devant des êtres qui vous ont fait un peu grandir. C'était la déférence de gens qui avaient été révélés, et révélés en mieux, par René Char. Or, comme je l'ai bien dit, ce n'étaient pas des intellectuels. Je peux vous dire qu'on m'a raconté après qu'il y avait bonne foi, je ne m'en suis pas aperçue. Moi, j'avais été conduite, je veux dire, elle était banale, j'avais été conduite là, j'avais loué une maison par hasard dans la région, je voulais louer une maison à l'Île-sur-Sorgue pour voir René Char. Je m'y suis prise une semaine avant le mois de juillet, il n'y en avait pas. J'ai abouti dans un petit village. Bon, j'étais tout à fait déçue. Je téléphone à Pierre Auster, je dis où allez-vous, un petit village, personne ne me connaît. Je finis par cracher le Barou. On me dit, mais c'est Pierre Auster, me dit, mais c'est chez Char. Première nouvelle, pour moi, Char, c'était l'Île-sur-Sorgue. En effet, Tina Jolas louait pour lui une maison tous les ans et quelquefois Noël au Barou. Donc, mais c'est pas là que j'ai connu, c'est donc à la mairie de René Char où j'ai éprouvé cela. Et il y avait des paysans. Il y avait des paysans. Et même maintenant, moins maintenant parce que beaucoup sont morts. Non, c'est moins vrai maintenant. Mais à l'époque, appeler un ouvrier qui venait faire je sais pas quoi, il pouvait parler de René Char avec cet accent. Bon, maintenant ça m'arrive. Oui, non, beaucoup sont partis. Voilà, il y avait donc tout ce goût de la fraternité. Du reste, il suffit de prendre partage formel et de regarder le nombre de noms propres, de prénoms, le nombre d'identités. Les Francis Curel, les Louise Kuttner, les Roux, mais il y en a plein, j'en ai pris trois. J'ai eu la flemme de les compter, mais il y en aurait des dizaines de noms propres de la région. Sans compter que les Roux étaient, je ne connais pas, étaient, quand il en parle, des paysans avaient une ferme dans la région et un des enfants de cette famille de paysans est devenu professeur agrégé et a écrit un livre sur René Char, rappelant, non pas un livre sur l'œuvre, mais un livre rappelant l'histoire de la période et des relations, voilà. Voilà, et tous ces gens-là sont présents dans partage formel. C'est-à-dire que cet homme, chef de réseau, capitaine Alexandre, qui recevait des aspirants résistants, avait la charge, quand il les recevait, de deviner si ce seraient des gens fiables ou des gens qui pouvaient être traîtres. C'était la guerre, tout de même. Et il a accordé une très très grande valeur à la fraternité, d'où ce que je viens de dire. Enfin, il prenait aussi des risques. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment il faisait pour les pour recevoir les postulants résistants, il le raconte dans Partage formel. Il les recevait dans son QG, avec au QG, je ne sais pas comment on dit, QG. Il les recevait, il avait mis au mur derrière lui une reproduction de la Madeleine à la Veilleuse de Georges de Latour. Ces gens ne connaissent, n'étaient pas artistes, voyons, c'était les gens du cru. Ils n'étaient pas plus artistes que quoi. Ils ne savaient rien. Mais quand ils rentraient, ils regardaient cette image énorme et ils les jugeaient sur leur réaction émotive. Il fallait le faire. Et il y avait risque parce qu'il fallait. Il fallait choisir des êtres solides. Donc c'est tout à fait étonnant. Néanmoins, ça lui allait. Mais ça lui allait. Voilà. Donc, c'est un être qui était très inséré dans ce milieu de campagne, de région, qui avait le don de la fraternité, aussi bien pendant la guerre qu'après, et qui a beaucoup parlé d'eux et parlé de soi avec eux, c'est-à-dire dans cette fraternité, ces collations partagées. Et comment dire, il exprime dans Éloge d'une soupçonnée, qui est un livre beaucoup plus tardif, si je ne m'abuse, c'était une édition posthume, c'est un livre qui est sorti après la mort de René Char, où il écrivait ceci: je ne suis pas séparé, je suis parmi souligné, ou en italique, je crois que c'est en italique dans le texte. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a la terre à dire, mais qui a aussi les autres à dire, autrui à dire, et qui le fait, me semble-t-il, voilà. Donc, il ne faut pas trop s'étonner que l'argument de Feuillet d'hypnose se termine sur une proposition d'humanisme. Je vais la citer si j'arrive à lire. Conscient de ses devoirs et, dit-il un peu plus loin, décidé à payer le prix pour cela. Voilà l'expression de la fraternité de René Char. Conscient de ses devoirs et décidé de payer le prix pour cela. Cet humanisme était un désir de l'autre. Donc, voilà comment cet esprit de résistance, cet esprit d'affrontement, comme j'ai pu dire, était en même temps l'alliance des contraires, esprit d'amitié, esprit d'affection. Et je pourrais en témoigner pour moi. Je voulais apporter des lettres qu'il m'a écrites. J'ai oublié. Pas les lettres, parce que je ne les sors pas, mais le petit livre où elles ont été publiées. J'en dirai un mot. Ce livre va être devrait. Il faut pas. Devrait être republié par Almanach pour le printemps des poètes. Mais je ne sais pas si ça aura lieu. Bon, voilà. Cela dit, il faut en venir, non pas à l'attitude, mais au motif, au fondement de l'attitude. Ces attitudes que j'ai essayé de décrire, elles avaient des raisons fondamentales. La première raison fondamentale, je l'ai déjà dit, donc je n'y reviens pas, je le redis pour mémoire, c'est que la poésie était liée à la résistance. Deuxième raison, plus profonde, il y avait un lien absolu chez lui entre poésie et vérité. Et enfin, troisième raison, il y avait un lien probablement moins évident entre poésie et espérance. Les trois choses. Poésie résistance, poésie vérité, poésie espérance. Et je fais une toute petite restriction sur le mot d'espérance, car comme vous savez, le mot d'espérance est un mot d'origine religieuse, théologique, c'est-à-dire l'espoir. Un malade, je vais le dire très simplement, un malade peut espérer guérir d'une maladie. Un malade qui est condamné par un cancer et qui sait sa mort prochaine peut garder son espérance dans la vie future, dans l'idée que sa vie aura eu un sens, dans sa morale et dans les autres. Donc ce sont deux mots tout à fait différents. Espérance étant un mot pratiquement théologique. Mais poésie et vérité, d'abord. Poésie des... vous connaissez la formule. Poésie et vérité, comme nous savons, étant synonymes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Je ne sais plus dans quel aphorisme, dans quel numéro. C'est dans Partage formel. Poésie et vérité, comme nous savons, étant synonymes. Voilà de quoi reprendre cœur, n'est-ce pas ? Et c'est une certitude pour lui, parce que la poésie va du vif au vif. Elle est dotée donc d'un pouvoir révélatoire. La poésie est connaissance. Et alors on peut jouer avec les mots de Claudel, connaissance en deux mots, etc., etc. Bon, elle est révélatoire. Et cela est tellement évident pour moi que j'en ai oublié de dire des choses, de lui dire un mot, mais ça ne m'intéresse pas. En fait, elle est dépouillée de toute ornementation, de toute fioriture, de toute... C'est plus l'objet. On est ailleurs. Voilà. Cela dit, quand il dit poésie vérité étant synonyme, il le répète selon d'autres mots ailleurs. Je cite par exemple, dans Éloge d'une soupçonnée, il faut s'interroger sur le titre, Éloge d'une soupçonnée, qui est la soupçonnée ? Évidemment la poésie. Cette allure de mauvais métier, le mauvais métier c'est lui qui parle de lui, hein. Ben, la soupçonnée, elle est soupçonnable, elle est soupçonnée. Eh bien dans poésie, l'éloge d'une soupçonnée, il écrit des choses comme ceci, la poésie domine l'absurde. Et je cite, parce que c'est plus compliqué, la poésie domine l'absurde, je vais vous dire pourquoi, par lui, parce qu'elle est l'absurde même. Bon, il y a une hiérarchie de l'absurde. Et je continue le texte plus sérieusement. La bouche élevée à hauteur de la bouche amoureuse, emplissant celle-ci de désir et de soif, de distance et d'abandon. Elle est l'inconstance dans la fidélité. Elle envoisine l'isolé. Le voici pour les contraires et l'alliance des contraires. L'isolé, l'envoisiné, l'inconstance, la fidélité, la distance, l'abandon. C'est un texte admirable. C'est un texte admirable où à nouveau se retrouve le balancement de la pensée du poète entre un pôle et un autre. Et si vous voulez, je relis. C'est un texte admirable. Je n'ai pas noté les... Si. Dans le Poésie Poche de Gallimard, c'est à la page 96. Là, j'ai noté. Ça m'arrive rarement. Donc, il y a toute cette affaire de foi. On est, quand je disais espérance, on est dans la foi, dans la poésie. Absurde comme la vie, la poésie est pourtant encore véracité et vérité. Non de cette vérité, alors là encore, il raffine tout le temps. Ce n'est pas une pensée fixe, c'est une pensée mobile et qui voit tous les points de vue à la fois. Donc, ou à la fois ou successivement. Par exemple, il dit ailleurs, il parle ailleurs, de vérité, infante mécanique. La poésie n'est pas une infante mécanique, c'est une infante qui vit vrai. C'est une vérité douée de vie, sinon ça n'a pas d'intérêt. Il y a un passage très intéressant sur ce point, qui est le numéro 53 de Partage formel, où le poète dit avec exactitude... Il y a un moment où le poète, dans Partage formel, au moment où, en pleine guerre, au moment où il est chef d'une petite bande, et les musiciens vont les faire prisonniers, vont les tuer. Et il raconte les faits. Les faits, il les raconte comme on raconte quelque chose, de la manière la plus efficace possible, point barre. Il n'y a aucune fioriture, il dit la vérité. Mais le poète surgit après, il y a une parenthèse à la fin, où il dit ceci, prends garde à l'anecdote, c'est une gare où le chef de gare déteste l'aiguilleur. Il s'arrête, il a écrit la vérité, qui est importante pour nous, parce que c'est une vérité matérielle, et en même temps, le poète qu'il est se reprend, c'est pas ça qu'on aime. Prends garde à l'anecdote, c'est une gare où le chef de gare déteste les gars. La véracité de René Char n'est pas la vérité immédiate telle qu'il a trouvée dans ce... telle qu'il a dit dans ce passage-là où il dit la vérité d'un moment de guerre. La véracité de René Char est ailleurs. C'est celle de la poésie. Elle est humaine et elle est pour autrui.
à les passages d'autrui à autrui. C'est ça qui est la vérité nécessaire. Mais cette véracité-là, qui est celle de la poésie, est supérieure, et c'est celle qu'il essaie d'avoir. Bon, voilà. Et j'ai dit tout à l'heure, je retiens le désir d'être parmi et pas séparé. J'ai parlé d'autrui. C'est là qu'il faut que culmine sa pensée. Mais j'en ai trop dit sur ce point, parce que René Char n'est pas un leçon de morale, ce n'est pas un moraliste, c'est un poète. Donc il faut passer à autre chose. Voilà. Pourquoi n'est-il pas un moraliste? Et pourquoi est-il un poète? Parce qu'il a trop de foudre en lui pour être dans une attitude, comment peut-on dire, abstraite. Vous savez, quand il écrit « L'éclair me dure », souvent je me suis posé la question de savoir si « L'éclair me dure » était un optatif ou un indicatif. Je n'en sais rien. Et ça, c'est le revers de la médaille. Pourquoi c'est le revers de la médaille? Parce que pour quelqu'un qui est si affamé de véracité, comment ne peut-il pas rencontrer le doute sur sa route? Quand vous désirez être absolument vrai, vous vous demandez si vous mentez, à tout moment. La véracité a pour revers de la médaille le fait de ne plus être exact, ou de tricher d'une manière ou d'une autre. Et toute la pensée de Char, avec cette décision de véracité, a pour envers, au revers de la médaille, un doute. Un doute, et comment dire, comme s'il s'agissait d'une évidence associée. Si fermement qu'il le fait, poésie et vérité, c'est quand même se poser des questions certains jours. Ben, voilà. De là, un souci, un engagement, une méditation qui vont de façon implacable traverser cette œuvre jusqu'à ce que la déchirure qu'ils impliquent se retourne en pouvoir et en force. Il y a un moment où ils passent par la nécessité de se questionner. Voilà. Donc René Char a d'abord eu peur, comme tout le monde peut-être, que la poésie ne mente. J'y reviendrai. Mais il a retourné le risque. Et c'est un poète et pas un moraliste. Cela dit, il n'empêche pas que le poète qui a rapproché les mots de poésie et de vérité déroule quelques paradoxes. Ce sont des choses qui ne peuvent être que paradoxiques. Et en effet, le même René Char qui pouvait dire à ses interlocuteurs « Nous qui ne croyons pas en Dieu, sans se préoccuper le moins du monde de ce que savaient les autres. Hein. » C'était vraiment... n'était pas mécréant. Il n'était pas mécréant du tout. Mais selon le jeu de mots qui n'est pas le mien, mais celui de la langue française, il était à la fois créant et croyant. Croyant en quoi? J'ai parlé d'espérance. Il était croyant. Non en Dieu, il l'a dit mille fois, mais croyant dans la possibilité de s'émerveiller et de l'autre et du monde, de la vie. C'est quelqu'un qui retourne toujours tout. Émerveillement devant autrui, d'où sa fraternité, je l'ai dit, d'où sa poésie amoureuse, évidemment. Mais il est aussi significatif que quand il parle de quelqu'un comme Mandelstam, il le dit émerveillé. Le premier mot qu'il emploie, c'est émerveillé. Voilà, il n'a pas tort. Ouais. Pour dire la vérité, il n'a pas tort. Et là encore, se retrouve son balancement perpétuel entre le meilleur et le pire. Du pire, il tire le meilleur et le meilleur à son risque, qui est le pire. Bon, quelque chose comme... ce que je crois là encore, mais je crois que je l'ai déjà dit, c'est que la poésie est toujours réaliste. En fait, le vrai poème ne dort jamais la pilule. C'est aussi bête que ça. Voilà. Et dans la poésie de Char, elle se tient dans la tenaille du meilleur et du pire, parce que la poésie touche au départ, parce qu'elle touche à toutes les parts. Voilà. On le verra tout à l'heure. Qu'est-ce que je veux en terminer peut-être. Bon, et pourquoi est-ce que c'est comme ça? J'ai dit émerveillement devant le paysage, devant la nature, devant l'autre. Il ne faut pas oublier qu'il dit que son poème est toujours marié à quelqu'un. Poème est toujours marié à quelqu'un, il faut le faire. Et bien évidemment, il dit son émerveillement devant la partenaire amoureuse, et tout à l'heure Colette Flin va lire un poème qui en est la preuve. Mais je vais quand même dire son quatre vers qui vivent son émerveillement devant la beauté. Car il y a aussi cette thématique chez Char. C'est quelqu'un qui respecte la beauté. Et pour les contemporains que nous sommes, où l'on aime tant saluer la laideur, c'est peut-être... Je me trompe ?
Un petit peu, oui.
Oui. Ça dépend qui. Lui, toute la place est pour la beauté. Je lis le texte. « Beauté m'a toute droite, par des routes si larges, et que je me que tu sois ma femme de décembre, ma fille future, ma vie future, c'est ton visage quand tu dors. Émerveillement. Et l'émerveillement va avec la connaissance de la douleur. Les choses se rejoignent. Je cite du reste ici ce qu'on a pu en dire Blanchot. Blanchot qui avait quand même les yeux qui voyaient bien. La fonction de la poésie, Char ne cesse de le répéter, c'est de maintenir cet affrontement des contraires, c'est d'en recueillir la souffrance et le fruit. Le poète peut nous apparaître ainsi, sous le double aspect du blessé et du conciliateur. Conciliateur, voilà, d'où les multiples facettes de l'œuvre. D'où aussi l'aphorisme que vous connaissez souvent, la poésie est l'amour réalisé du désir demeuré désir. D'où aussi la poésie où se retrouve le manque, comme je l'ai dit tout à l'heure. D'où aussi que le fait que, je cite, l'angoisse mobilise. Et encore ceci, non ça je ne le dis pas, c'est peut-être pas la peine à ce heure-ci, il faut donc dire que qui que nous soyons, entre le pire et le meilleur, le consentement et le non-consentement, nous sommes compris dans les descriptions que donne Char. Voilà. Je voudrais terminer par un autre mot, et c'est un mot comme connoté. Je voudrais terminer sur cette œuvre en disant qu'elle me paraît être un pari. Je n'ignore pas que quand on pose le mot de pari, on pense à quelqu'un d'autre, qui est Pascal. C'est Pascal qui a parlé de pari. Et comme nous savons tous, on ne parie pas que 2 et 2 font 4, encore que j'ai rencontré des mathématiciens qui essayaient de prouver que 1, qui m'ont dit que 1 plus 1, ça faisait 2, c'était une démonstration très difficile. Bon, nous ne sommes pas mathématiciens, mais quand on parie en général, c'est qu'on parie sans preuve. Comme Charles dit, comme Braque le dit aussi, dans les cahiers, je ne sais pas si vous connaissez cette petite chose, un tout petit cahier qui s'appelle « Les cahiers du jour et de la nuit », qui sont un texte admirable de Braque, où il y a des choses comme dit Char, « Les preuves fatiguent la vérité ». Eh bien, Char est quelqu'un qui ose, j'ai parlé d'inconnu, parier, comme quelqu'un d'autre qui est Pascal. Et voilà, et ce rapprochement... me paraît intéressant. C'est très souvent que j'ai pensé à Pascal en lisant Char. Char voulait trouver la grâce. La grâce n'est pas un mot de moi, c'est un mot que Paul Venn a beaucoup employé. Ou l'extase, qui est un mot encore plus fort, que Paul Venn emploie aussi. Et Paul Venn écrit quelque part qu'il cherche, ça c'est une citation de Char, l'extase neuve devant le vide frais. Voilà. C'est sur ce point que je vais m'arrêter. Je voudrais juste faire une toute petite remarque pour annoncer la couleur. Vous avez évidemment remarqué que j'admirais profondément cette œuvre. Il y a quelqu'un qui se moque de moi beaucoup sur ce temps. C'est vous ? Voilà. Je le fais parce que je pense que c'est un génie. Je pense à le relire. C'est un génie. Je dirais même que c'est un saint de la véracité poétique. Voilà. Et je vous confierai que j'ai souvent été attaquée et parfois méprisée pour cette admiration que j'avais pour Char, et que ça m'est parfaitement indifférent, et que je me sens un peu comme un papillon qui va où les fleurs lui plaisent. Voilà. Je crois que j'ai à peu près dit ce que j'avais. Quel désordre. Quel désordre. Voilà. Est-ce que j'avais à dire autre chose? Ah oui, puisque j'y suis, je livre tout net. Je n'ignore pas qu'en ce moment, il y a des gens, je vais en nommer un, qui s'appelle Jules Stéphan,
qui parle de Char, qui se dit anti-Char. Je n'ignore pas non plus qu'il y a quelqu'un comme Prigent, que tout le monde connaît, qui dit de Char que c'est un vaticinateur pompier. Bien, bien. Eh bien, la vérité nous rendra libres. C'est Char qui l'a dit. On peut discuter autant qu'on veut.
Très bien, merci.
Ah oui, bien sûr. Je voudrais d'abord que Colette lise en premier lieu Allégeance. Et puis après, vous organisez.
On va voir, mais
vous
on va couper. On va couper. Je n'ai pas l'habitude, mais je suis parfait comme ça.
Non, on va commencer. On a commencé.
Très
bien, très bien.
Allégeance. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima. Il cherche son pareil dans le vœu des regards. L'espace qui parcourt est ma fidélité. Il dessine l'espoir et léger les conduit. Il est prépondérant sans qu'il y prenne part. Je vis au fond de lui comme une épave heureuse. À son insu, ma solitude est son trésor. Dans le grand méridien où s'inscrit son essor, ma liberté le creuse. Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé, il n'est plus mon amour, chacun peut lui parler. Il ne se souvient plus qui au juste l'aima et l'éclaire de loin pour qu'il ne tombe pas.
Es-tu aussi évadé? L'été et notre vie étions d'un seul tenant. La campagne mangeait la couleur de ta jupe odorante. Avidité et contrainte s'étaient réconciliées. Le château de Maubec s'enfonçait dans l'argile. Bientôt s'effondrerait le roulis de sa lyre. La violence des plantes lui faisait vaciller. Un corbeau, rameur sombre, déviant de l'escadre, sur le muet silex de midi écartelé, accompagnait notre entente au mouvement tendre. La faucille partout devait se reposer. Notre rareté commençait un règne. Le vent insomnieux qui nous rit de la paupière en tournant chaque nuit la page consentie veut que chaque part de toi que je retienne soit étendue. Un pays d'âge affamé et de larmiers géants. C'était au début d'adorables années. La terre nous aimait un peu. Je me souviens.
Un oiseau chante sur un fil, cette vie simple, à fleur de terre. Notre enfer s'en réjouit. Puis le vent commence à souffrir et les étoiles s'en avisent. Oh, folle, de parcourir tant de fatalités profondes. L'ordre légitime est quelqu'un inhumain. Ceux qui partagent leurs souvenirs, la solitude les reprend. Aussitôt fait silence. L'herbe qui les frôle éclot de leur fidélité. Que disais-tu? Tu me parlais d'un amour si lointain qu'il rejoignait ton enfance. Tant de stratagèmes s'emploient dans la mémoire. Sur le volet d'une fenêtre. Visage, chaleur blanche, sœur passante, sœur disant, suave persévérance, visage, chaleur blanche. Le tort. Dans le sentier aux herbes engourdies, où nous étonnions, enfants, que la nuit se risqua à passer, les guêpes n'allaient plus aux ronces, les oiseaux aux branches. L'air ouvrait aux hôtes de la matinée sa turbulente immensité. Ce n'était que filament d'ailes. Tentation de crier, voltige entre lumière et transparence. Le torse exaltait sur le lyre de ses pierres. Le mont Ventoux, miroir des aigles, était en vue. Dans le sentier aux herbes engourdies, la chimère d'un âge perdu souriait à nos jeunes larmes.
Faste ! L'été chantait sur son roc préféré quand tu m'es apparu. L'été chantait à l'écart de nous qui étions silence, sympathie, liberté triste, mer plus encore que la mer dont la longue pelle bleue s'amusait à nos pieds. L'été chantait et ton cœur nageait loin de lui. Je baisais ton courage, entendais ton désarroi. Route par l'absolu des vagues, vers ces hauts pics d'écume où croisent des vertus meurtrières pour les mains qui portent nos maisons. Nous n'étions pas crédules, nous étions entourés. Les ans passèrent, les orages moururent, le monde s'en alla. J'avais mal de sentir que ton cœur, justement, ne m'apercevait plus. Je t'aimais en mon absence de visage et mon vide de bonheur. Je t'aimais, changeant en tout, fidèle à toi.
Redonnez-leur ce qui n'est plus présent en eux. Ils reverront le grain de la moisson s'enfermer dans l'épi et s'agiter sur l'herbe. Apprenez-leur, de la chute à l'essor, les 12 mois de leur visage. Ils chériront le vide de leur cœur jusqu'au désir suivant. Car rien ne fait naufrage ou ne se plaît aux cendres. Et qui sait voir la terre aboutir à des fruits, point ne l'émeut l'échec, quoi qu'il ait tout perdu. Dis ce que le feu hésite à dire, soleil de l'air, clarté qui ose et meurt de l'avoir dit pour tous. L'argument de poème pulvérisé. Comment vivre sans inconnu devant soi? Les hommes d'aujourd'hui veulent que le poème soit à l'image de leur vie, faite de si peu d'égards, de si peu d'espace et brûlée d'intolérance. Parce qu'il ne leur est plus lisible d'agir suprêmement dans cette préoccupation fatale de se détruire par son semblable, parce que leur inerte richesse les freine et les enchaîne, les hommes d'aujourd'hui. L'instinct affaibli perdent tout en se gardant vivants jusqu'à la poussière de leur nom. Nés de l'appel du devenir ou de l'angoisse de la rétention, le poème, s'élevant de son puits de boue et d'étoiles, témoignera presque silencieusement qu'il n'était rien en lui qui n'exista vraiment ailleurs, dans ce rebelle et solitaire monde des contradictions.
Et trois très courts. Le poète transforme indifféremment la défaite en victoire, la victoire en défaite, empereur prénatal, seulement soucieux du recueil de l'azur. Quelquefois, sa réalité n'aurait aucun sens pour lui si le poète n'influençait pas en secret le récit des exploits de celle des autres. Et enfin, magicien de l'insécurité, le poète n'a que des satisfactions adoptives, cendres toujours inachevées.
Marthe que ces vieux murs ne peuvent pas s'approprier, fontaine où se mire ma monarchie solitaire, comment pourrais-je jamais vous oublier, puisque je n'ai pas à me souvenir de vous? Vous êtes le présent qui s'accumule. Nous nous unirons sans avoir à nous aborder, à nous prévoir comme deux pavots font en amour une anémone géante. Je n'entrerai pas dans votre cœur pour limiter sa mémoire. Je ne retiendrai pas votre bouche pour l'empêcher de s'entr'ouvrir sur le bleu de l'air et la soif de partir. Je veux être pour vous la liberté et le vent de la vie qui passe le seuil de toujours avant que la nuit ne devienne introuvable. On va peut-être s'arrêter là.
là, oui.
Non, on va plus grave.
Oui, on
a vu l'heure. On a encore les petits mots, mais...
On peut prendre une question.
Oui, mais tu as des livres éventuellement à
toi là. Tu as des livres
voilà.
Alors, je vais porter des ciseaux.
Peut-être une seule question, sinon on n'aura pas le temps.
Oui, on est un peu pris par le temps. S'il y a une question, pardon. S'il y a une question éventuellement, quand même, on peut accueillir la question et éventuellement y répondre. Oui.
Oui. Alors. Pourquoi être
ému de
René Char?
Est-ce que
ça a un sens?
Non. Alors, je connais beaucoup de poètes qui ont écrit comme René Char. Il y en a un dont le nom m'échappe là, dont on n'entend plus parler, et qui avait moi-même commencé très probablement par être prise par cette rythmique. Bon, je suis allée ailleurs parce que c'est la vie. Enfin, on a des rythmiques qui changent en même temps que l'on vit. Voilà. Moi, je reste avec ce repère, mais il y a Racine, j'ai parlé de Molière tout à l'heure, les repères sont innombrables. Donc, que veut dire copier quelqu'un? Ça n'a pas de sens. On commence par là, probablement. Rimbaud a commencé avec des formules qui pouvaient sembler hugoliennes. Quand il avait 15 ans, ou 13 ans, ou 10 ans. Je crois que c'est tout. Il faut des repères de qualité.
J'ai beaucoup aimé votre
Je n'ai pas du tout parlé
avec le surréalisme. Parce que si vous voulez, par exemple, ça va un peu en tradition avec les idées.
Oui,
ben, je sais pas.
Vous avez sûrement raison. J'en ai pas parlé parce que je ne pouvais pas parler de tout. Et parce qu'il est parti de là. Moulin premier, en 33 morceaux, c'est très près de ça. Et puis son épaisement cité, peut-être aussi parce que c'était un homme de la terre et pas un parisien. Mais il a été jeune ici. Il a fait les 400 coups. Hein. Donc, il a, par exemple, un jour, ça on me l'a dit, deux voleurs ont pris une voiture, une belle voiture de sport décapotable, sont partis avec. Il s'est mis à courir, il a donné un coup de poing au chauffeur de la dite voiture, il a rendu la voiture au fiancé qui avait été volé. Content de lui. C'est l'expansion.
Toute petite chose aussi, ce n'est peut-être pas tout à fait rien de s'appeler le capitaine Alexandre.
Oui.
Quand même.
Quand même. Oui, c'est vrai. Ça, c'est incontestable. J'y avais jamais pensé.
Moi non plus, mais là, tout d'un coup, en y pensant,
mais non, c'est bon, vrai.
Mais quand même. Eh bien, on va terminer sur cet Alexandre-là. Et merci encore beaucoup.
Merci, Colette.